les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le bœuf sur le toit, c'était toute une époque. Et pour mieux comprendre, peut-être mieux se figurer ce qu'il se passait derrière les murs du cabaret légendaire des années 20, il n'est pas inutile de rappeler ce qu'était la vie au dehors, ce qu'était l'air du temps que respirait le bœuf. Dans le troisième épisode du documentaire qu'en 1972, Paul Chavas consacrait au bœuf sur le toit, on se plongeait dans ce que l'on appellerait peut-être aujourd'hui le contexte culturel des années 20. L'épopée aéronautique, le cinéma, Charlie Chaplin, la musique de George Gershwin, le jazz, la revue nègre, Joséphine Baker, les ballets suédois, la fin du dadaïsme, la naissance du surréalisme et toujours le groupe des six, Doric, Duret, Honegger, Millau, Poulenc et Taillefer, fil rouge des cinq volets de cette série dont on évoque ici les mariés de la Tour Eiffel. Le bœuf sur le toit 50 ans après, troisième épisode, le bœuf sur le toit, son époque, ses spectacles.
Le bœuf sur le toit, 50 ans après. Une émission produite en 1972 par Paul Chavas et réalisée par Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet. Prise de son en extérieur, André Hautser. Mixage, Françoise Brochard. Troisième partie, le bœuf sur le toit, son époque, ses spectacles. Avec Adrienne Bollin, Georges Langelanne, André-Paul Antoine, Jean Vienner, Germaine Taillefer, Denise Santor, Pierre Bertin, Georges Auric, Georges-Henri Rivière, Henri Sauguet.
Ce fameux cabaret qui avait pris pour nom celui d'une œuvre que Darius Milhaud avait rapportée du Brésil, ce cabaret était au centre de toute l'effervescence artistique des années 20. Georges Langelanne atteignait alors l'adolescence.
Nous habitions près de la Tour Eiffel, en face du Champ de Mars, et un jour, un ingénieur anglais qui était en visite chez nous m'a fabriqué un poste de radio avec une aiguille à ma mère et une pomme de terre également à ma mère. Et grâce à l'écouteur du téléphone, on entendait les signaux morse de la Tour Eiffel. Ça, c'était très impressionnant. Et c'est vers cette période-là, un jour, qu'en écoutant, j'ai entendu une voix. Et j'ai dit à mon père, il y a quelqu'un qui parle là-dedans. Il m'a dit, il ne faut pas mentir, il m'a giflé. Mais c'était vrai, j'avais entendu une voix. C'était les tout débuts de la radio. Alors, ce sont des choses qu'on considère comme inimaginable aujourd'hui, n'est-ce pas? Je me souviens également très bien de l'exposition de 1925. Il y avait pour nous des choses étonnantes parce que 1925 a vraiment été une charnière dans la décoration, dans l'ameublement. C'était la fin du nouille et du buffet Henri II et la naissance de quelque chose qui n'a pas duré bien longtemps d'ailleurs, mais enfin la naissance de quelque chose. Il y avait un effort. Alors on trouvait des choses absolument étonnantes. Je me souviens d'une chambre à coucher tout en marbre. Et je me disais, mon Dieu, c'est très joli, mais est-ce qu'on doit avoir froid dans ce lit? Et il y avait aussi des meubles en fourrure. J'ai vu les premiers meubles en fourrure à l'exposition 1925. Il y avait un parc d'attractions absolument sensationnel, où étant adolescent, je faisais le beau avec un chapeau de paille. On portait le chapeau de paille à cette époque-là, et j'ai emmené une fille sur les Scenic Railway, et je tenais mon chapeau de paille sur les genoux, et à la chute, au moment où l'appareil est remonté, il m'a rentré mon chapeau de paille dans les dents, et il y est resté coincé. C'était absolument affreux. Il a fallu que j'aille au dentiste pour qu'il retire des morceaux de chapeau de paille dans, entre mes dents.
C'était un grand moment également pour les arts, pour le théâtre.
Le théâtre, j'en ai peu vu. Je me souviens vaguement de certaines pièces de Bernstein. Mais je me souviens très bien de la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées. J'étais à la première, où pour la première fois, j'ai vu Joséphine Baker. Et elle n'était pas la plus surprenante, d'ailleurs. Il y avait des garçons extraordinaires dans cette revue. On n'avait jamais vu de la musique comme ça, on n'avait jamais vu de la danse comme ça, on n'avait jamais vu de tels acrobates. Je me souviens d'une scène en particulier qui m'avait vraiment soufflé. C'était deux nègres qui se battaient avec des rasoirs. Et ils étaient tous deux en chapeau melon. Et à un moment donné, il y en a un qui a coupé la couronne du chapeau de l'autre. Ce sont des choses qui sont restées pour moi. J'ai également connu, dans cette période-là, les chauffeurs de taxi russes, parce que je jouais énormément aux échecs, et il y avait des parties avec les cercles russes. Et petit à petit, j'ai connu comme ça presque tous les chauffeurs de taxi à Paris, les vrais colonels, grands-ducs et autres qui faisaient le taxi. On s'entendait très bien et ils m'ont invité à leur fête. Ils avaient une sorte de quartier général à Asnières, où ils faisaient leurs fêtes entre eux, et ils avaient gardé leurs uniformes, leurs décorations, et l'homme qu'on voyait en casquette à sa voiture, le soir, on le retrouvait en grand uniforme, absolument splendide, avec sabre et chapeau et casque et gants et tout le reste, et les dames qui faisaient les ménages dans la journée, qu'on retrouvait en robe de cour. Et c'était très beau. Et ils avaient des danses de salon basées sur la polka, sur la valse, mais avec des figures très compliquées. Et c'était un spectacle magnifique que de voir ces gens danser. Et d'ailleurs, ils ne vous laissaient pas reposer. Ils vous apprenaient ces danses et danser avec eux. Et j'ai bu le champagne avec eux lorsqu'ils faisaient des montagnes avec les coupes de champagne. On commençait par 100 coupes de champagne à la base, et puis dessus on construisait des étages, et avec des magnums on versait le champagne dans la coupe du haut jusqu'à ce que tout soit plein, et puis on buvait, on jetait la coupe par-dessus l'épaule, et ils sacrifiaient des centaines de coupes comme ça chaque fois. Moi je n'étais pas grand buveur, mais je les ai vus assis à la table boire jusqu'au dernier qui passerait sous la table, et le dernier se levant et disant j'ai gagné et s'écroulant à son tour vers 5 ou 6 heures du matin.
Quant à Adrienne Bolland, elle a réussi au printemps de 1921 à franchir la première, la cordillère des Andes, là où tous les hommes avaient échoué. C'était à quelques 4000 mètres d'altitude, tout près de l'Aconcagua, et elle avait 25 ans.
Des hommes avaient passé, mais pas par où je suis passée. Moi, j'ai fait une première en passant par Uspallata, Las Cuevas, c'est là qu'ils s'étaient tous tués. Alors ça ne m'intéressait pas du tout d'aller où les autres ne s'étaient pas tués. C'est là que je voulais passer.
Parce que c'était plus haut.
Et c'était très mauvais. Je suis partie de Mendoza. Moi, j'avais dit je partirais. Je n'ai jamais pensé que j'arriverais. Ça, je dois vous dire que je ne faisais pas de projet sur mon arrivée à Santiago. Parce que personne n'y croyait, et moi non plus. Mais j'avais dit je partirais. Je suis partie. Et au moment de partir, il y avait juste... je ne sais pas comment ils l'avaient su, parce que je n'avais rien dit à personne. Mais enfin, ils avaient su que j'avais reçu une magnéto neuve dans la nuit. Ils se sont doutés que j'allais partir au lever du jour. Et il y avait 4 ou 5 personnes. Il y avait 1 ou 2 journalistes et puis des personnes qui les avaient montées en voiture. Et alors, ils pleuraient quand je suis partie. Alors ça vous donne du courage, je vous assure. Il pleurait tellement, il y en a un qui dit « J'ai accompagné les autres, on ne les a jamais revus. »
Et quels étaient les moyens techniques dont vous disposiez ?
D'abord, rien.
L'aéroplane, puisque c'était son nom.
Quand on dit que c'était un zinc en bambou, ben c'était à peu près ça. Il y avait beaucoup de cordes à piano. Déjà, pour monter dedans, c'était une performance. J'étais dehors jusqu'à la ceinture, et vous savez, il ne faisait pas chaud. En 21, il y avait beaucoup de neige. C'était très précoce. Et il ne tombait pas de neige quand je suis passée. Mais le vent, qui soufflait avec une violence inouïe, me ramenait toute la neige comme si j'avais été vraiment dans une tourmente. Ça n'arrangeait rien parce que ça alourdissait mon zinc. Enfin, vous savez, j'avais 40 heures de vol. J'avais jamais survolé une montagne. Et puis, j'y faisais pas attention, je m'en foutais.
Les instruments de navigation ?
Oh ben, il y avait un contour pour le moteur et puis un altimètre pour l'altitude, c'est tout.
Et votre chemin, vous le trouviez comment ? La radio était muette.
Ah ben, il n'y avait pas de radio, je n'avais pas de compas, je n'avais pas de carte. Alors, j'avais demandé, avant de partir, vous savez, aux paysans, quand j'étais à Mendoza, avec cette muraille devant moi, je leur disais, où est Santiago ? Et alors, d'un geste de la main, ils me disaient, voyez, c'est là. Je disais, ben, c'est là qu'il faut que j'aille. Et je suis arrivée sur Santiago.
En combien de temps ?
Un peu plus de 4 heures.
Mais vous avez dû terriblement souffrir du froid, je pense.
Ah oui, ben, j'étais pleine de sang quand je suis arrivée. Le sang m'avait coulé partout, par le nez, par la bouche, par les oreilles, partout. J'étais pleine de sang. Et la première chose que j'ai demandé, il était 10 heures du matin quand je suis arrivée, on a voulu me donner du champagne. J'ai dit non, j'aimerais bien un bon café. C'est le général du terrain sur lequel je m'étais posée. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous voudriez encore ? J'ai dit, je voudrais une glace pour me regarder. Alors j'étais chez des militaires, il n'y avait pas de glace. Et tout d'un coup, j'ai vu arriver deux militaires avec une glace qu'ils avaient certainement décellée. Elle était énorme. Il portait ça. Quand j'ai vu la tête que j'avais, j'étais catastrophée.
Surtout, je crois que vous étiez enveloppé de journaux pour résister
au
froid.
Ah oui, mais tout ça, c'était en dessous. On ne les voyait pas, mes journaux. J'avais même les mains enroulées avec du papier beurre. Je n'avais pas d'argent pour acheter des gros lainages. Et puis, c'est des gens de Mendoza ou des gauchos, je crois, qui m'avaient donné une paire de grosses laines de chaussettes. Alors, j'avais ça, j'avais pas mis de souliers parce que j'avais peur que mes pieds gèlent dans les chaussures. Alors, j'ai dit, je vous dis, je ne pensais pas tellement à arriver, je n'y pensais pas. Eh bien, je suis arrivée en chaussettes.
Pour André-Paul Antoine, ce remue-ménage cocasse ou éblouissant qui touchait toutes les formes du spectacle rejoignait un peu une tradition de famille. Son père, Antoine, avait fondé le Théâtre Libre. Mais il y avait eu la guerre.
En fait, la génération qui rentrait de la guerre rentrait naturellement complètement dégoûtée, écœurée, anticonformiste. nous avions mesuré ce qu'on pourrait appeler la vanité de la gloire. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, Moïsès avait créé ce petit bar. Et là, alors, se réunissait. C'est là que j'ai connu Crevel, que j'ai connu Cocteau, Radiguet, bien sûr. Radiguet qui ne parlait pas, d'ailleurs. Autant Cocteau était éblouissant, souvent futile, quelquefois intéressant et quelquefois très profond. Alors Radiguet, lui, était un être assez silencieux, assez taciturne, massif. Et il avait l'air un peu d'un paysan qui venait à la ville le dimanche, vous savez. En dehors de ça, il y avait Jacques de Malessé, Jacques Rigaud. Pas d'homme politique, à part Vaillant Couturier, qui est venu une fois ou deux, qui était un vieux copain à moi que j'avais connu chez sa maman, qui était, comme vous le savez, cantatrice à l'opéra. Alors il faut bien dire qu'une bonne partie de ces garçons, qui étaient tous pleins de talent, d'intelligence, étaient drogués. Parce que la cocaïne marchait un bon coup, et l'opium. Pas moi, d'ailleurs, par hasard, parce que j'aime pas ça. Bon. Et dans l'ensemble, j'ai gardé le souvenir de discussions à la fois futiles, passionnées et brillantes, d'ailleurs. Cocteau, naturellement, était ce qu'il a toujours été. Et on le considérait, d'ailleurs, comme celui d'entre nous qui, de loin, aurait certainement le plus grand avenir, à moins qu'il terminât en prison ou dans une maison de fous. Nous ne savions pas exactement. En tout cas, nous l'aimions beaucoup.
Mais si nous parlions maintenant un peu des spectacles dont vous gardez un grand souvenir, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, à cette époque-là ?
On vivait à ce moment-là par petits cénacles. Alors, il y avait une très grande solidarité entre les jeunes. Et il y avait, par exemple, un de ces coins-là, c'était la Fleur de Lys. La Fleur de Lys était un petit bistrot qui était situé le long du square qui est en face de la Bibliothèque Nationale, là à droite. C'était tenu par un patron qui était un ancien comédien et qui était royaliste. Et il recueillait à ce moment-là les jeunes auteurs dramatiques qui traversaient une passe dangereuse ou négative. Nous retrouvions là Marcel Achard qui arrivait de Lyon, Janson, qui était le grand homme, parce que Janson écrivait à Bonsoir, que dirigeait Alfred Savoir. Et il y avait, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait Jean Sarmon, et il y avait Steve Passer.
Paul Collin ?
Il y avait Paul Collin, lui, qui faisait des dessins sur nos programmes et sur les nappes.
Et sur scène, alors ?
Sur scène, ben, vous savez, c'était la période Fifi sur scène. Le type même de l'ouvrage proliférant au boulevard, dans lequel d'ailleurs a débuté Cosséa, je vois encore une jeune roumaine de 20 ans, blonde, ravissante, et qui a été pour beaucoup dans ce succès.
Dites-moi, et c'était aussi la garçonne et ce fameux scandale.
Ah, ça, sont les femmes. Alors ça, c'est le commencement de l'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes qui était venue de ce que pour maintenir le moral à l'arrière, on avait naturellement monté en épingle l'admirable travail des femmes, qui s'étaient mises à la charrue, qui s'étaient mises au commerce, et qui avaient démontré d'ailleurs au cours de ces 4 ans qu'elles étaient d'excellentes administratrices, qu'elles étaient beaucoup plus habiles et beaucoup plus adroites en affaires que les hommes, et qu'après tout, on n'avait pas du tout besoin d'eux, ils étaient très bien où ils étaient. Alors, elles ont eu naturellement à l'époque l'instinct tout à fait normal, étant donné que les hommes rentraient, il s'agissait de faire un petit peu les comptes et de mettre tout le monde à sa place, mais leur place n'était plus celle d'avant. C'est de cette époque qu'a daté le mouvement réel d'émancipation de la femme.
Qui s'est manifesté, par exemple, dans leur apparence.
Alors, immédiatement, les cheveux coupés, bien entendu. Ça a été naturellement le scandale de la garçonne, avec ce pauvre Victor Marguerite, qui était d'ailleurs un vieux copain et un être absolument charmant. Et puis...
qui a été radié de l'ordre de la Légion d'honneur.
Oh, il a été vomi, jeté partout, rejeté par la bonne société, radié de la Légion d'honneur, et il a vendu 1 million d'exemplaires, ce qui était tout de même une espèce de compensation.
C'était une époque où l'on dansait beaucoup.
On ne faisait que ça. Maintenant, ça n'avait pas commencé dans l'après-guerre immédiate, ça avait commencé pendant la guerre. Les dancing, ça a été une folie, une rage. On dansait un peu pour s'étourdir. Les gens qui venaient du front pour ne plus penser qu'ils devaient y retourner. Ceux qui étaient là simplement parce que ils avaient finalement horreur d'attendre toujours le petit mot officiel qui vous dit « Madame, votre mari ne rentrera pas ».
Et enfin, ça a été un moment très important que vous avez particulièrement bien connu, celui du cinéma.
Alors là, le cinéma, ça a été une toute autre histoire. D'abord, on venait d'avoir la révélation de Charlot. Puis alors, ça a été les premiers Griffiths, ça a été le Lys brisé, ça a été... alors là, les premières des films au Paramount, par exemple, étaient des véritables batailles. On y allait pour ou contre le metteur en scène, pour ou contre la vedette.
Et tous les milieux s'intéressaient, commençaient à s'intéresser.
Tout le monde commençait à s'intéresser au cinéma. Pour ma modeste part, j'ai eu la chance d'y participer avec ce fameux Miracle des loups. Cécile B. 2000, n'est-ce pas, emplissait le monde avec ses reconstitutions historiques. Alors un de mes amis qui s'appelait Dupuis Masvel avait eu l'idée de faire un grand film historique. C'est Raymond Bernard, qui était le fils de Tristan, qui était un copain à moi, qui était chargé de mettre en scène. On avait engagé un garçon qui s'appelait Vermoyal pour jouer Louis XI, qui était une grande vedette du muet, car tout ça est muet, bien entendu. Et un jour, en bavardant, l'idée m'est venue. Je dis à Dupuis Masvel, pourquoi ne prenez-vous pas Dulin ? Car le cartel démarrait en même temps, parallèlement. Pourquoi ne prenez-vous pas Dulin ? Il ferait un Louis XI étonnant. Il m'a dit oui, mais il ne voudra pas. Il n'acceptera jamais de jouer au cinéma. Dulin, vous vous rendez compte, enfin, qui est la pureté même, qui est la tête de l'avant-garde, qui est le parangon de la vertu littéraire, n'acceptera jamais ça. Il s'est trouvé que Dulin était très embêté à ce moment-là, parce qu'il devait 30 000 francs à son propriétaire, et que le propriétaire avait décidé de fermer l'atelier aux vacances. Alors j'ai été le voir un soir comme ça, et j'ai dit à Dulin, écoute, est-ce que tu veux rouvrir ton théâtre ou non ? Il m'a dit oui, tu as besoin de 30 000 francs. Oui, quand ? Il m'a dit tout de suite, à l'instant. À l'instant, c'est peut-être pas possible, mais tu peux l'avoir dans 3 heures. Il m'a regardé comme on regarde un fou, et alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est moi, voilà, il faudrait que tu joues un rôle. Quel rôle ? Louis XI. Louis XI, c'est un personnage qui... Je dis oui, mais c'est au cinéma. Alors à ce moment-là, j'ai entendu tout ce que un homme peut dire de méprisant à un autre homme. Il m'a dit, il est honteux à ton âge d'être vendu à des marchands de pellicules. Tu me dégoûtes. D'ailleurs, tu sabotes ton avenir. Tu ne feras plus jamais rien. Je te méprise, etc. Bon, quand il a eu terminé, je lui ai dit, la question n'est pas là. La question est de savoir si tu veux tes 30 000 francs. Il m'a dit oui, alors je l'ai emmené, il a signé, c'est comme ça que Dieu l'avait mis au cinéma.
Colette, bénéficiant d'un privilège unique, Jean Cocteau a gardé ce que nous avons tous perdu. La fantasmagorie intime. Il ne connaît ni domaines interdits, ni routes brouillées, ni seuils effacés. L'ourlet de feu qui cernait comme un nuage prometteur de foudre les prodiges familiers du jeune âge ne s'est pas encore éteint pour Jean Cocteau.
André Gide, journal 1921. Avant mon départ, était voir Parade. Cocteau se promène dans la coulisse où je vais le voir. Vieilli, contracté, douloureux. Il sait bien que les décors, les costumes sont de Picasso, que la musique est de Satie, mais il doute si Picasso et Satie ne sont pas de lui.
Cocteau était absolument partout et on le voyait, enfin, on le voyait dans un endroit, on ne pouvait pas le voir dans 10 endroits à la fois, mais il y était.
Jean Wiener.
Car il s'est servi toute sa vie énormément du téléphone et c'est incroyable. Enfin, il organisait une rencontre de 500 personnes avec 4 coups de téléphone. Il savait exactement l'heure et la seconde où il fallait, l'endroit où il fallait taper et C'était un animateur unique au monde et un homme de génie pour moi.
Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous jouer un air du temps du bœuf sur le toit et qui plaisait particulièrement à Cocteau, qu'il vous demandait par exemple?
Oh, ça, je ne sais pas, il y en avait énormément. Il y avait celui-là que nous avait apporté Joséphine Baker et qui continue d'ailleurs à se jouer.
Germaine Taillefer.
Eh bien, Cocteau, qui était un ami de Satie et qui était très intéressé par notre groupement, par nos tendances, a pris la tête de notre groupe. Et il nous disait cette chose qui était merveilleuse et qui était exactement le reflet du moment. L'impressionniste vient de tirer son joli feu d'artifice à la fin d'une longue fête. C'est à nous de bourrer les pétards d'une autre fête. En réalité, nous sommes tous partis de cela. C'est ce qui nous a fait écrire cette soi-disant musique à l'emporte-pièce. En réalité, c'était, il fallait nous dégager de Wagner et des impressionnistes, de Debussy, de Ravel et de toute l'école. Vincent l'a dit.
Quelle était la silhouette de Jean Cocteau à cette époque?
Des cheveux noirs et bourriffés, très minces, très élégants, vêtus toujours de gris clair, de couleurs gaies. Et c'était naturellement un être étourdissant d'esprit. C'était un feu d'artifice qui rivalisait beaucoup avec Madame de Noailles. D'ailleurs, et quand il se trouvait avec Madame de Noailles, il y avait toujours des inventions merveilleusement faites pour empêcher Madame de Noailles de parler. Il nous faisait des tours de jonglerie, des tours de passe-passe. Un jour, il a mis une bicyclette sur la table. Nous tenions tous la bicyclette. Il jonglait, il faisait des choses invraisemblables.
Juin 1921, au Théâtre des Champs-Élysées, première représentation des Mariés de la Tour Eiffel, par la compagnie des ballets suédois de M. Rolf Demarais. Fauneau 1, Marcel Errand. Fauneau 2, Pierre Bertin. L'autruche, le chasseur, le directeur de la Tour Eiffel, le photographe, la mariée,
si j'ose dire, le marié, musicalement, la belle-mère, c'est né de la paresse d'Auric. J'ose le dire, car c'est Auric qui devait faire toute la... C'est Auric qui devait faire toute la partition.
Et qui a proposé qu'on s'y mette tous.
Qui a proposé qu'on s'y mette tous.
Ça s'est passé chez Jean Hugo. C'était alors le mari de Valentine Hugo qui habitait au Palais Royal. Oui. Et nous avons décidé de faire l'œuvre tous ensemble.
Voilà. Et ce qu'il y a d'ailleurs de prodigieux, c'est que quand on songe que quelquefois Auric à ce moment-là nous semblait paresseux. Or, peu de compositeurs travaillent plus que lui maintenant. Mais n'est-ce pas, à cette époque-là, quelquefois, il se laissait aller. Et alors... La musique des Mariés de la Tour Eiffel n'étant pas faite par lui tout seul, alors Jean nous a dit, eh bien, mettons-nous-y tous. Et alors, Auric avait fait la ritournelle,
l'ouverture,
les ritournelles. Honegger avait fait une marche funèbre.
La marche funèbre, et toi, tu avais fait
la baigneuse de Trouville et le discours du général. Et puis, Germaine Taillefer avait fait le ballet des dépêches, et Darius Milhaud, la fugue massacre.
La fugue du massacre. Oui.
Et comment ont été accueillis ces Mariés de la Tour Eiffel?
J'en vous le dirai.
Ça a été un affreux scandale. Nous avons commencé avec un succès fou. Tout le monde riait, tout le monde applaudissait. Et brusquement, quand le cortège de la noce est entré en scène, je ne sais pas si c'est la présence du général, pourtant il y a beaucoup de ganache dans toutes les pièces, toujours est-il que le scandale a commencé. Ça a été un des scandales les plus terribles auxquels on puisse assister. C'était d'une violence extrême, puisque même des gens voulaient cracher à la figure de ma mère qui était dans une loge de corbeille.
C'était là un des rares documents qui nous permettent d'entendre la voix de Francis Poulenc. Il s'entretenait avec Jean Cocteau, des Mariés de la Tour Eiffel, dont nous allons maintenant écouter un extrait.
Discours du général.
Thank you. monde est ému.
Après son discours, le général raconte les phénomènes de mirage dont il fut victime en Afrique.
Je mangeais une tarte avec le duc d'Aumale. Cette tarte était couverte de guêpes. Nous essayâmes en vain de les chasser. Or, c'était des tigres.
Quoi ?
Des tigres ! Ils rôdaient à plusieurs milles. Un phénomène de mirage les projetait en tout petit, juste au-dessus de notre tarte, et nous les faisait prendre pour des guêpes.
On ne dirait jamais qu'il a 74 ans.
Mais quelle est cette charmante cycliste en jupe culotte ?
Entre une cycliste en jupe culotte, elle descend de sa machine.
Pardon, messieurs.
Madame, qu'y a-t-il pour votre service ?
Suis-je bien ici sur la route de Chatou ?
Oui, madame. Vous n'avez qu'à suivre les rails du tramway.
C'est le général qui répond à la cycliste, car il vient de la reconnaître pour un mirage.
La cycliste remonte en selle et sort.
Mesdames, messieurs, nous sommes justement témoins d'un phénomène de mirage. Ils sont fréquents sur la tour Eiffel. Cette cycliste pédale en réalité sur la route de Chatou.
Après cet intermède instructif, le photographe s'avance. Que dit-il ?
Je suis le photographe de la tour Eiffel et je vais faire votre photographie.
Oh oui, oh oui, 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 oh oui, oh oui, oh oui, oh oui.
Formez un groupe.
La noce forme un groupe derrière la table.
Vous vous demandez où sont partis le chasseur d'autruches et le directeur de la tour Eiffel. Le chasseur cherche l'autruche à tous les étages. Le directeur cherche le chasseur et dirige la tour Eiffel. Ce n'est pas une sinécure. La tour Eiffel est un monde comme Notre-Dame. C'est Notre-Dame de la rive gauche.
C'est la reine de Paris.
Denis Santor.
C'est Marie de la tour Eiffel était quelque chose d'extraordinaire, vous savez. Je crois qu'il y a eu deux trucs. Il y a eu Ubu et les mariés de la tour Eiffel. Si on se représente ce qu'était la situation du monde à cette époque-là. Tout d'un coup, on nous montre aux mariés de la tour Eiffel un général qui fait un discours. Je crois que c'est une musique dorique. Il appelait poum poum. Le photographe dit, un petit oiseau va sortir, il sort un lion qui vient bouffer le général. Le lion revient avec la jambe du général. Et on voit arriver une espèce de gros maflu ridicule, avec une espèce de bonnet de marin. L'enfant de la noce qui attrape des boules et qui massacre tout le monde. Et bien le massacre de la noce par les enfants de la noce, c'est toute l'époque bœuf sur le toit.
Ne bougeons plus. Souriez, regardez l'objectif. Un oiseau va sortir.
Sort une baigneuse de Trouville. Elle est en maillot, porte une épuisette contenant un cœur et un panier en bandoulière. Éclairage colorié. La noce lève les bras au ciel.
Oh, la jolie carte postale.
Dans sa préface, Cocteau écrit
« Les mariés de la tour Eiffel, à cause de leur franchise, déçoivent davantage qu'une pièce ésotérique. Le mystère inspire au public une sorte de crainte. Ici, je renonce au mystère. J'allume tout, je souligne tout. Vide du dimanche, bétail humain, expression toute faite, dissociation d'idées en chair et en os, férocité de l'enfance, poésie et miracle de la vie quotidienne, voilà ma pièce. Si bien comprise par les jeunes musiciens qui l'accompagnent. Une phrase du photographe pourrait me servir de frontispice. Puisque ces mystères me dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Les phonographes humains à droite et à gauche de la scène parlent.
Pierre Bertin.
Il y avait deux phonographes
un au jardin à la cour. C'était des boîtes en bois, n'est-ce pas, avec des pavillons énormes. C'était des grosses boîtes puisque nous nous mettions dedans. Et elles étaient tellement bien faites qu'un jour, la porte, c'était comme des armoires, et la porte s'est fermée. Et moi, j'étais enfermé dans mon phonographe et je ne pouvais pas sortir. Et je criais, je faisais tout ce que je pouvais, rien à faire. Le théâtre se vidait, il n'y a plus personne. J'étais dans le noir et dans un phonographe. Heureusement, il y a un concierge, je crois, qui a entendu hurler. Je me dis, je vais passer la nuit là-dedans. J'étais très mal à l'aise. Et alors, le concierge, heureusement, est venu me dégager. Mais c'est un souvenir de phonographe qui est rare dans la vie d'un homme.
Je pense. Les premières représentations ont été un peu orageuses.
Oh oui, mais de bonne humeur. De bonne humeur, parce que c'était tellement joli. Évidemment, c'était stupéfiant pour les gens du théâtre habituel, parce que les personnages étaient des énormes poupées. C'était des carcasses, c'est pas, qui représentaient des personnages, un gendarme, un général, un directeur de la Tour Eiffel. Enfin, ils avaient des drôles de têtes, puis il y avait toute une noce à l'heure qui arrivait. Et les costumes étaient tellement jolis, des costumes de Jean Hugo. C'était vraiment, le décor était d'Irène Lagut.
La presse prolongea l'écho du scandale. On vit fleurir les parodies, telles les louftingues de la Tour Eiffel de Jean de Lettraz. Henri Béraud appela les six les jeunes calicocteaux. Seule la marche du général Donéguer, qui reprenait sous un faux air sérieux la valse de Faust, fit, comme dit Cocteau, se dresser les longues oreilles.
Georges Auric.
Le point de départ des mariés de la Tour Eiffel, c'était les ballets suédois, le mécène, le Diaghilev des ballets suédois, était un homme charmant qui est maintenant disparu lui aussi.
Rolf de Marais.
Qui s'appelait Rolf de Marais. Et il avait eu un immense désir de réunir toutes sortes d'artistes, aussi bien peintres que musiciens, dans les programmes de ses ballets. Et il a voulu avoir une œuvre de ce petit groupe des six dont on parlait alors, et il nous a demandé d'écrire une œuvre collective dont Jean Cocteau, lui, rédigerait le texte. Et c'est ainsi que sont nés les mariés de la Tour Eiffel, dont évidemment la première représentation demeure dans mon souvenir parmi tout ce que nous sommes en train d'évoquer maintenant. Ça demeure évidemment un des souvenirs les plus cocasses, parce que vraiment, je crois que la soirée a été très particulièrement scandaleuse, et peut-être, alors, je suis un peu gêné pour en parler, peut-être que Georges-Henri Rivière, qui était là, pourrait, lui, nous en parler.
Mes souvenirs ne sont pas assez solides pour en parler valablement. J'en profite pour te poser une question, d'ailleurs, parce que tu vas revenir sans doute sur ce que tu as dit, n'est-ce pas? Mais étais-tu présent aux Champs-Élysées, si je ne me trompe, à la première soirée de Joséphine Becker? Car je me rappelle qu'il est allé avec Millot, et peut-être toi.
Ah oui, mais j'étais tout ce qu'il y a de plus présent à cette soirée. Il faut dire que cette soirée, où nous l'avons vue pour la première fois, est une chose également inoubliable, parce que cette femme était quelque chose de prodigieux, de prodigieusement troublant, extraordinaire, à mon avis, de beauté, et puis une révélation.
Cette extraordinaire révélation, qui était d'ailleurs à la source d'une sorte de connaissance que j'ai fait d'elle à ce moment-là, et qui m'a valu ensuite la commande, enfin, d'une chanson que j'ai faite l'année d'après, aux Folies Bergères, sur elle, et qu'elle a dansé, Joséphine. «
parler partout d'une femme qui s'est fou. Fait la pige à la Vénus Calipige, à ses appâts triomphants. J'en oublie la baisse du franc, le 3%, les impôts, les bêtises d'Herriot. Enfin, il y avait une suite, évidemment, mais je ne peux pas vous l'imposer. J'en ai déposé l'édition d'Enoch il y a quelque temps au Musée des Arts et Traditions Populaires.
C'était important, les Folies Bergères.
Ah, c'était un spectacle. Nous y allions quelquefois avec Michel Léris, car nous apprécions beaucoup ce genre de spectacle. Nous y trouvions quelque chose de sacré, même. Mais je ne peux pas oublier que dans des années qui sont encore valables dans notre domaine en ce moment, puisque les grandes périodes du bœuf, on peut dire que ça se termine vers 1928 ou 30, oui, n'est-ce pas, à peu près. Eh bien, c'est le moment où est venu à Paris, au Moulin Rouge, cette extraordinaire troupe des Black Buzz. Oui. Alors là, je suis sûr que nous avions quelque chose d'admirable, enfin, par la qualité de la musique, des chansons, des voix, des danseurs, de l'interprétation générale.
Mais ça, c'était très différent.
Mais oui, enfin, oui, j'étais sûr que je serais d'accord avec toi.
Enfin, ce qu'on appelle le jazz, et ce qu'on a bien raison d'étudier avec beaucoup de sérieux,
car
pour moi, le
socio-culturel
jazz,
très
le
important.
Jazz est une chose très importante. Oui. Mais nous l'avons découvert peu à peu.
J'y allais tous les soirs, à peu près, à un certain moment, avec Michel Léris. Et nous étions tellement venus familiers que nous avions le droit d'aller sur la scène aussi. Et même quand le rideau était levé, enfin, on nous voyait parfois traverser la scène comme ça, négligemment, enfin, non pas comme des fâcheux, mais enfin, des fâcheux, mais vraiment comme des gens intégrés, dont la présence était tout à fait naturelle.
Mais c'était une époque où vous aviez un goût pour les divertissements de toutes sortes qui était extraordinaire. Vous alliez les uns ou les autres voir des spectacles de sport de boxe notamment. Oui. Les fêtes foraines vous amusaient follement. Toutes les distractions étaient bonnes et étaient élevées par vous à un certain niveau.
Ah oui, on était en somme pas loin, puisqu'on nous a donné une sorte de seuil qui était à peu près 1930, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire les conséquences du krach de 29.
Oui, oui, il y a vraiment une raison économique à l'effondrement, je crois, de cette société. C'est en effet le grand krach américain qui a mis fin à certains surplus qu'avaient ces gens généreux et qui, à partir de ce moment-là, n'ont pu avoir le chèque aussi facile, évidemment. On a maintenu une certaine partie de la domesticité, de la splendeur des habitations, on n'a pas vendu les meubles ni les peintures, mais on a quand même donné moins de fêtes à partir de ces années-là, de cette chute brutale, enfin, des valeurs américaines.
J'aimerais, Pierre Bertin, que vous nous parliez quand même encore un peu de théâtre. Par exemple, ces soirées que vous avez organisées au Théâtre Michel en mai 1921, le Théâtre Bouffe.
Oui, la soirée du Théâtre Bouffe. J'avais eu l'idée de réunir, parce que j'aimais beaucoup Max Jacob et je le voyais souvent. Et je lui disais, tu as un don de théâtre en toi. Tu ne te rends pas compte, ton dialogue dans tes livres, ton dialogue dans ses romans, c'est très vivant, c'est très théâtral. Alors, je vais y penser. Puis alors, un jour, il me dit, tu sais, j'ai écrit quelque chose, ça vaut pas grand-chose. Mais je dis, fais voir. Et alors, il m'apporte une petite pièce qui s'appelait « Trois figurants au théâtre de Nantes ». Et cette pièce a été jouée dans la galerie Barbazange, qui était une grande galerie de peinture, qui était située au Faubourg Saint-Honoré, mais était très grande, était très grande. Et on avait fait une soirée spécialement pour ce jour-là. C'est toujours cette idée de se divertir. Cette pièce, malheureusement, a disparu, comme les autres.
Mais c'est vous qui, au Théâtre Michel, toujours avez fait réaliser Les Pélicans.
Ça c'était une soirée alors que de théâtre bouffe spécialement que j'avais organisée pour jouer cette pièce de Max Jacob perdue qui s'appelait La
Femme Fatale, donc.
Pour jouer alors une pièce d'Éric Satie qui s'appelait Le piège de Méduse, qui a été enregistré il n'y a pas longtemps dans un disque d'ailleurs, qui était avec la musique du même monsieur, comme il disait. Et il y avait Les Pélicans, une pièce que Raymond Radiguet, qui avait 18 ans à ce moment-là, avait écrite, et qui était absolument charmante.
Il y avait encore une pièce de Cocteau.
Alors il y avait une pièce de Cocteau qui s'appelait Le gendarme incompris. Le gendarme incompris était une, une histoire à trois ou quatre personnages dans laquelle je jouais le rôle d'une vieille marquise qui s'appelait la marquise de Montonçon. C'était une opérette en quelque sorte. Et cette petite opérette, la musique était de Poulenc. C'était une sorte d'onirocritique, disait Cocteau. Il avait mis toute une énorme page de Mallarmé dans la bouche d'un gendarme. Et alors, ce gendarme qui avait gardé l'accent de gendarme de cette époque-là, disait le texte de Mallarmé, je crois qu'il était très alambiqué, bien sûr, comme tout ce qu'écrivait Mallarmé, dans la bouche de ce gendarme, c'était absolument drôle. Eh bien, personne n'a reconnu que c'était un texte de Mallarmé.
Et pour vous, dans le domaine du théâtre, alors si on vous limite à ce domaine-là pour un moment?
Je finissais mon séjour à l'Odéon et je me rappelle que c'est là que j'ai donné pour la première fois Les Fâcheux de Molière avec une partition de Georges Auric. Et ensuite, Diaghilev, je me rappelle très bien, est venu voir ce spectacle avec Massine et tous les deux ont décidé d'en faire un ballet.
Et j'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer très jeune un homme comme Diaghilev, car c'est lui qui le premier m'a demandé d'écrire une œuvre pour sa troupe. Et en 1923, je me trouvais au mois de décembre, je n'ai jamais oublié cette date, à Monte-Carlo, où on répétait le premier ballet que j'ai composé pour Diaghilev, qui s'appelait Les Fâcheux.
Avec des décors de Braque.
Avec des décors de Braque. Il a été créé au début de 1924, à Monte-Carlo, avant de venir de monter à Paris, n'est-ce pas? Et évidemment, c'était merveilleux, puisque j'avais tout de même, j'avais 24 ans. Eh bien, à 24 ans, c'est magnifique d'avoir cette chance.
Oui, comment travaillait-on avec lui? Par exemple, pour Les Fâcheux, je sais qu'il connaissait déjà la musique de scène que vous aviez faite 2 ans auparavant pour l'Odéon.
Oui, il avait entendu cette musique, et c'est précisément cela qui lui a donné l'idée de me demander de changer complètement cette petite partition, car la musique de scène était très, très brève. Alors, un très jeune homme de cette époque, qui s'appelait Boris Cocteau, et que Diaghilev avait connu quelques mois auparavant, avait, lui, de son côté, établi un petit livret d'après la pièce de Molière, et c'est comme ça que nous avons refait la partition de musique de scène que j'avais composée pour le théâtre de l'Odéon, où d'ailleurs Pierre Bertin jouait je ne sais plus quel rôle. Enfin, et c'est devenu un ballet qui a été joué, je vous le répète, en 24. Il a eu un peu de succès, sans doute, puisque à la suite de ce ballet, Diaghilev m'a demandé d'en écrire un second, qui s'appelait, lui, Les Matelots, qui a été créé en 1925, un an après, et un an après, encore un troisième, qui s'appelait La Pastorale. Dans tous ces ballets, l'Iphare apparaissait, seulement dans Les Fâcheux, c'est-à-dire début 24, il apparaissait dans le final du ballet, le moment, vous savez, traditionnel, des ballets très classiques, où tout le monde danse plus ou moins allègrement, et on voyait un tout jeune homme qui figurait dans ce final des Fâcheux et qu'on remarquait simplement parce qu'il avait une présence déjà très, très particulière et qui annonçait un grand danseur. Mais il était un petit danseur. Diaghilev l'a distingué. Un an après, dans Les Matelots, il jouait un des rôles principaux et dans La Pastorale également, il était devenu Serge Liffa.
Henri Sauguet, le plus jeune du groupe des six, est bordelais. Mais il est arrivé à Paris au moment où tout bougeait, où les créations les plus originales se faisaient, où étaient sur le point de se faire.
À Bordeaux, j'ai vécu toute ma jeune enfance, j'ai fait mes premières études musicales, et je suis venu en effet à Paris en deux fois, si j'ose dire. Je suis venu la première fois en 1921. Sur l'invitation de Darius Milhaud, avec qui je m'étais lié par lettre. Vous savez que Milhaud, à ce moment-là, représentait ce qu'il y avait de plus neuf, de plus hardi, de plus vigoureux, de plus nouveau dans la musique et dans l'art de cette époque. Et bien entendu, en jeune provincial ébloui, je lui avais écrit une première lettre et lui envoyé d'ailleurs quelques essais musicaux qu'il considéra avec attention et intelligence et gentillesse. Et il m'offrit de venir le voir à Paris et à ce moment-là, pour entendre deux choses. Pour entendre la première audition à Paris de l'œuvre de Schoenberg, Le Pierrot Lunaire, qu'il dirigeait lui-même au concert organisé par Jean Wiener, et pour entendre au ballet suédois sa partition de L'Homme et son désir et Les Mariés de la Tour Eiffel, qui était le ballet que le groupe des six et Jean Cocteau avaient composé avec les décors de Jean Hugo. Je vins donc à ce moment-là, d'ailleurs à l'insu de mes parents, car j'avais à peine ma majorité, et ils n'auraient certainement pas voulu que je vienne à Paris. Je fis donc semblant d'aller assister à un mariage de campagne, et je m'échappai dans un train de footballeurs qui venait ici disputer un match pour avoir une réduction sur les prix du voyage, puisque je le payais avec mon argent de jeune garçon personnel. Et c'est ainsi que je fus tout de suite mêlé à la vie extraordinaire de Paris de cette époque. Je venais passer un week-end, je connus par la même occasion, en même temps que Darius Milhaud, Jean Cocteau, Georges Auric, Francis Poulenc, j'aperçus de loin Eric Satie, je fus placé le dimanche après-midi à côté de Maurice Ravel. Enfin, c'est vous dire ce qu'avait été pour ce jeune provincial l'éblouissement de ce premier contact avec Paris.
Quelles ont été vos sensations de spectateur à ce moment-là ?
Or, bien évidemment, vous imaginez ce qu'un garçon de 19 ans, puisque j'avais 19 ans, pouvait éprouver, jeté au milieu de cette extraordinaire mêlée artistique qu'était la vie parisienne à cette époque, et dont j'eus le sentiment alors tout à fait total en assistant non point à l'inauguration du Bœuf sur le Toit, qui venait d'être inauguré quelques jours auparavant, mais à une des premières soirées où là tout le monde artistique, intellectuel, mondain se rencontrait. Ce que fut le Bœuf sur le Toit pendant cette époque, on peut mal l'imaginer aujourd'hui. Il n'y a rien de comparable, de même qu'avant. Ce n'était pas un café littéraire, ce n'était pas les deux magots de l'époque de Sartre. Non, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'abord, il y avait le jazz qui venait de faire son apparition en France et qui, déjà, autour de lui, commençait à connaître cette espèce de vogue, d'étonnement, d'intérêt de la part de tous les artistes, de tout le monde. Et puis alors, tous ces artistes qui se mêlaient là, on y voyait évidemment Picasso, Satie, Stravinsky, le groupe des six, Jean Cocteau, bien sûr, et puis d'autres poètes, Radiguet, enfin tout ce qui, à ce moment-là, représentait une valeur dans le domaine des arts, s'y retrouvait, et non point pour faire de l'art, mais pour parler de la vie en général, car ce qu'il y a de remarquable à considérer dans cette époque, c'est que l'art avait tout d'un coup rejoint la vie.
J'aimerais enregistrer vos souvenirs sur ces premières représentations auxquelles vous avez assisté quand vous êtes venu pour ce prestigieux week-end, la première fois de votre vie, et où vous avez entendu dans le même voyage L'Homme et son désir et Les Mariés de la Tour Eiffel.
Eh bien, vous savez, pendant la guerre, Bordeaux avait été tout à fait écarté de toute vie artistique, si ce n'est cependant que nous avions eu tout de même quelques personnalités comme Saint-Saëns qui était venu, Madame Félia Litvine, Francis Planté donner des concerts, mais pas de spectacle. Or là, je me trouvais devant des spectacles, et des spectacles extrêmement nouveaux, puisque c'était les spectacles des ballets suédois. Les ballets suédois ont eu le privilège de mettre ensemble les artistes de même époque et de les présenter. Et c'est ainsi que L'Homme et son désir de Milhaud, qui est une partition extrêmement nouvelle et révolutionnaire, dans laquelle, vous savez, la batterie, la percussion, tient un rôle éminent. avait un décor en trois plans, ce qui s'est fait beaucoup depuis, mais qui se faisait là pour la première fois. Il y avait les mariés de la Tour Eiffel, cette sorte de mimodrame dans lequel Jean Cocteau tenait lui-même le rôle d'un speaker enfermé dans une sorte de phonographe, avec les extraordinaires décors d'Irène Lagu et les costumes prodigieux de Jean Hugo. Il y avait d'autres spectacles, d'ailleurs, que j'ai vus à ce moment-là. Et puis alors les concerts, il faut penser que les concerts du dimanche étaient en grande partie consacrés aux musiciens de l'époque, aux musiciens contemporain.
Et dans quelles circonstances êtes-vous donc venu à Paris pour la seconde fois, c'est-à-dire pour vous y installer?
Pour toujours. Alors là, évidemment, quand j'ai connu cette extraordinaire effervescence de la vie parisienne, je n'ai eu qu'un désir, c'était rejoindre ces jeunes héros de l'art et de la musique que j'avais rencontrés au cours de ce week-end.
Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, il n'y avait pas que les Bordelais qui pensaient de la sorte. De nombreux étrangers croyaient que tout pouvait se faire à Paris et seulement à Paris.
Mais c'est un effet tout à fait extraordinaire de penser la place que Paris a occupée dans le monde artistique à ce moment-là. Exactement la place qu'Athènes, jadis Florence, ont eue, n'est-ce pas? Il est évident qu'à ce moment-là, Paris a polarisé une sorte d'univers artistique, intellectuel, de toutes sortes, les peintres, les musiciens, les écrivains. Il y avait eu tout de suite avant la guerre, ce premier coup de semonce aux arts qu'avaient donné évidemment des gens comme Apollinaire, comme Picasso, comme Max Jacob. Mais c'est évident que là, il se trouvait alors en plein épanouissement. Aujourd'hui, quand je pense à cette époque, je suis frappé de ce qu'elle a donné, des réponses avant que les questions ne fussent posées. Et ces réponses, aujourd'hui, font se poser des tas de questions à tout un tas de jeunes d'aujourd'hui qui s'étonnent de cette existence d'un art si nouveau, si peu formel, et qui devait engendrer tant de choses, et qui, alors, eux, sérieusement, fouillent dans cet amas de nouveautés, de curiosités, d'insolites, pour essayer d'en tirer des esthétiques et des manières de faire. Je pense qu'en vérité, là, il s'est trouvé tout d'un coup des artistes qui, en complet contact avec leur temps, ont fait éclore tout ce qui devait devenir l'art de notre temps. Et il est curieux de constater que ce sont toujours les mêmes personnes qui attirent autour d'eux les mêmes regards, que ce soit Stravinsky, que ce soit Picasso, que ce soit Schoenberg, que ce soit Satie, que ce soit Millot, que ce soit Derain, que ce soit Braque, que ce soit Apollinaire, que ce soit Proust, que ce soit tous ces gens-là qui demeurent encore les phares de notre époque. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'art que l'on voit une telle permanence et un tel désarroi également dans tous ceux qui devaient suivre.
Autant où vous êtes venu à Paris, autant qui nous occupe aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui percevait très profondément, très finement toutes ces contradictions et toutes ces richesses. C'était bien sûr Jean Cocteau.
Sans doute, Jean Cocteau a tout d'un coup découvert les œuvres où elles étaient, les talents où ils étaient. Il les a polarisés. Il a été une sorte de sourcier, en même temps qu'il a été une sorte d'animateur, de présentateur de son époque. Le nom de Cocteau est doublement historique, je vous dis, d'abord par son œuvre. N'aurait-il fait que cette œuvre-là sans même se montrer en public, il aurait déjà une place dans l'histoire de l'art de cette époque. Mais lui, le personnage, alors, a joué au premier plan un rôle qui était souvent irritant par beaucoup de ses côtés, parce qu'il allait si vite qu'il vous voyait même au-delà de vous-même. Enfin, c'était un peu agaçant de voir cet homme qui vous prenait vos idées de votre propre bouche pour les présenter. Mais néanmoins, il est évident qu'une grande partie des artistes de ce temps lui doivent d'avoir été connus à leur temps et leur doivent la place qu'ils occupent.
Et bien entendu, puisque nous parlons du bœuf sur le toit, c'était réellement lui qu'on voyait le plus souvent.
Eh bien, vous savez l'histoire du bœuf sur le toit, vous savez que d'abord, c'est par le jazz. Donc, mais Cocteau, très intéressé comme toujours par cette chose nouvelle qui arrivait, cette catastrophe apprivoisée, comme il l'appelait, n'est-ce pas, a voulu créer un petit groupe de jazz dont il tenait lui-même la percussion, Wiener le piano, et je ne sais plus qui encore était aux autres instruments, où il y avait un nègre qui jouait du saxophone, Vance, je crois qu'il s'appelait.
Vance.
Pourquoi le bœuf sur le toit? C'était en vérité une œuvre que Darius Milhaud avait ramenée du Brésil, où il venait de passer quelque temps comme secrétaire secrétaire de Paul Claudel. Ce nom plut et Jean Cocteau en fit alors, à ce moment-là, une sorte de pas de ballet. C'était un mimodrame qui fut représenté, je crois bien, au théâtre Bataclan, chez Madame Razimi, avec des décors de Dufaux et des masques d'un homme qui s'appelait Fauconnet, qui est mort peu après et qui avait un très grand talent d'ailleurs dans cette invention de masque. Et c'est le nom qu'a pris Cocteau pour cette boîte de nuit qui devait faire tant parler d'elle et où on a tant parlé d'elle.
Autour du bœuf sur le toit, une série d'émissions de Paul Chavas, réalisée par Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet. Aujourd'hui, troisième partie, le bœuf sur le toit, son époque, ses spectacles.
Cette émission a été diffusée la première fois le 20 août 1980 sur France Culture et initialement le 1er janvier 1972 dans sa version longue. À suivre. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.